Ok, on est parti. Alors, rebonjour. Donc, on va avec Jules, on va vous parler un peu des effets sonores maintenant. Alors, lundi, vous avez déjà eu deux présentations de Théo Marshall et Grégoire Chelkov qui vous ont un peu présenté des effets sonores. Donc, on s'est dit, bon, on va éviter de refaire une troisième redite. Et on s'est dit qu'on aimerait vous faire écouter un peu plus de son, là, maintenant, tout de suite. Et là, j'aurais une petite demande, ce serait que ce soit un peu plus en interaction aussi avec vous. Donc, ma première demande, ça serait si, pour celles et ceux qui ont leur PC et qui ont fait des prises de son, on peut aussi, à un moment donné, écouter des petites séquences que vous avez prises. Et ça peut être un moment aussi d'analyse collective, de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on peut repérer certains effets sonores? Voilà, on peut le prendre aussi plus sur ce mode-là, et pas forcément sur la conférence là, pendant une heure. Juste pour vous redire quand même, je vais aller rapidement là-dessus, mais sur resituer un peu les effets sonores, parce que je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc le laboratoire Cresson, il est créé en 79, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça?
Ouais,
plus de 40 ans. On arrive à une période où il y a eu les années 60 et 70, où on a eu deux gros concepts, de gros travaux en fait assez importants sur le sonore. D'une part, il y a eu Pierre Schaeffer, qui a élaboré la notion d'objet sonore. Je ne sais pas si ça vous parle un peu, Pierre Schaeffer, mais il a cherché un peu à dépasser l'opposition entre la musique et tout ce qui est les bruits ou des sons qui seraient non musicaux. Et pour lui, tout était prétexte à devenir un son musical. Donc il a élaboré cette notion d'objet sonore. Voilà. C'était dans les années 60, je passe rapidement là-dessus, je ne suis pas non plus un expert de la question d'objets sonores, mais c'est un pilier important en fait dans la filiation vis-à-vis des effets. Dans les années 70, ensuite, il y a encore une fois un compositeur qui s'appelle Murray Schaeffer, canadien, dont on vous a parlé aussi à plusieurs reprises pendant la semaine, qui lui développe le néologisme de soundscape, qui sera traduit par paysage sonore en français. Alors, avec des débats qui sont toujours en cours. Et là, pour le coup, qui est une approche très esthétisante, une approche... Les reproches qui lui sont faits, c'est d'opposer un peu des paysages sonores naturels qui qualifient de paysages hi-fi, haute fidélité, à des paysages sonores urbains très marqués par les bruits industriels, de la circulation, qui va qualifier de lo-fi, donc de basse fidélité, ou en tout cas où on ne peut pas vraiment repérer les sons les uns par rapport aux autres. Enfin bon, il va développer cette théorie du paysage sonore. Et en fait, les fondateurs du Cresson arrivent un peu là-dedans, s'intéressent au sonore, découvrent ses travaux et se disent, ces notions, elles sont intéressantes, objet sonore, paysage sonore, mais elles ne nous permettent pas en fait, de vraiment décrire finement toutes les interactions sonores, d'aller décrire un peu plus précisément tous ces environnements sonores et urbains. Et ils avaient envie de développer un autre outil, et d'où l'idée des effets sonores. Alors, ce qui est annoncé dans ce livre, c'est qu'il y a vraiment cette filiation hein, vis-à-vis de Pierre Schaeffer et Murray Schaeffer, mais ils n'ont pas envie de développer un nouveau concept, mais plus dans l'idée de faire une boîte à outils évolutive pour qualifier un peu l'ensemble des interactions sonores. Ça se veut aussi comme un outil interdisciplinaire qui va vraiment piocher dans l'acoustique, dans des effets, je ne sais pas comment dire ça, mais...
psychoperceptifs.
Voilà, psychoperceptifs. Pour rebondir un peu sur ce que Rima nous a présenté tout à l'heure, que je trouvais super intéressant, c'est de pouvoir parler du sonore sans nécessairement être toujours dans l'écoute. En fait, on peut tout à fait qualifier le sonore juste avec des verbatims. Et ça a été aussi une des façons dont s'est constitué le répertoire des effets sonores. C'est-à-dire que les chercheurs du Cresson avaient récolté une quantité assez importante de témoignages par des entretiens, par de différentes méthodes. D'ailleurs, il y a eu la méthode de l'écoute... de l'entretien par écoute réactivée qui avait été élaboré, c'est-à-dire de donner à entendre des paysages sonores, enfin des environnements sonores enregistrés, de les faire réécouter aux personnes. C'est des enregistrements qui étaient faits dans leur environnement quotidien. Et par là, d'avoir leur retour. Enfin, voilà. Et en analysant tout ça, en fait, ils ont essayé de ressortir des éléments génériques qu'ils ont qualifiés d'effets sonores. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors ces effets, ils sont répartis en tout un tas de familles. Là, on va essayer de balayer un peu l'ensemble de ces effets-là, de vous faire écouter quelques petites séquences un peu courtes, d'illustrer en fait hein, ce qui a déjà été dit dans la semaine. Et puis, on terminera peut-être par quelques séquences un peu plus longues. Ces effets sonores, en fait, ils se combinent toujours. Hein, c'est pas, il n'y a pas un puis l'autre. Voilà, c'est toujours combiné ensemble. Parfois, c'est même moi tout à l'heure en réécoutant certaines séquences. Et en préparant, j'avais du mal à me dire, mais dans quel registre on est voilà, quand on parle de réverbération, d'écho, par exemple, il y a des choses qui sont très, très voisins comme effet. Voilà. Et puis, c'est un répertoire qui est évolutif. Théo, il a parlé lundi de l'effet de distance, par exemple. Il y a des choses nouvelles, en fait, qui peuvent être constamment alimentées à ce répertoire. D'où l'idée aussi que vous puissiez, si vous êtes d'accord, faire écouter des séquences. Enfin, n'hésitez pas, il n'y a pas d'obligation. Ouais, on y va.
Je sais pas si tu oui, chose, juste préciser, je ne sais pas si tout le monde a regardé ses mails, je vous ai envoyé hier un petit memento où on retrouve les catégories des faits. Je pensais vous refaire un speech là-dessus, mais comme vu qu'il y a déjà deux ou trois personnes qui en ont parlé, vous êtes censé être au courant, vous mettez le memento si vous voulez un peu creuser plus loin. Et à suite de quoi, j'ai mis des définitions courtes tirés du répertoire, des effets qui ont été repérés donc, à l'époque où ils ont travaillé pour élaborer ce répertoire, sachant, comme dit Sébastien, qu'on peut toujours découvrir d'autres effets ou alors trouver d'autres acceptions de tel effet qui a été défini dans le domaine de la musique. On peut se dire, ah bah tiens, moi je l'entends aussi dans les voies de chemin de fer. Des choses comme ça. Donc voilà, on va peut-être commencer par une petite séquence d'écoute. Moi, je vous conseille toujours en fermant les yeux, c'est bien pour écouter. Et puis, suite à quoi, on essaiera une petite description collective pour voir les mots que vous y mettez aussi, vous.
Ouais. D'accord. Allez, c'est parti. On peut le faire sans micro, sinon c'est.
C'était très. Il y avait plein de choses, comme un nuage autour, des éléments qui émergeaient, qui disparaissaient. Enfin, je pensais aussi qu'il y avait des moments d'amplification de mouvement où ça descendait. Comme si on montait des collines, on descendait. Quoi.
Ok. devant là.
Ouais, ouais.
C'était
très long en fait.
Très long.
Ouais, très long. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'on allait avoir, je sais pas, 500. Et après, on allait savoir ce que c'était. Du coup, au début, je les ai notés tout de suite et je les ai notés vite pour ne pas les oublier.
Vas-y, vas-y.
J'en ai noté trois. L'amplification, je suis d'accord. Enfin, je l'ai vite ressenti. Le tintement, les bruissements, à un moment donné, on entend quelque chose d'assez proche. Je sais pas ce que c'était. Et après, il y en a plein d'autres, mais du coup, c'est difficile avec un tel flow très divers de ensuite de l'identifier, de le séquencer et ça se perd.
Là, je dis à mince, alors tu me poses un autre problème. C'est que ces mots que tu dis, les tintements, les bruissements et tout le vocabulaire qui existe pour décrire des sons, quels qu'ils soient, ça peut être des sons très divers qui tintent ou qui bruissent. On n'a pas vraiment étudié ce genre de vocabulaire-là.
Ouais.
Donc, peut-être à creuser, justement.
C'est des éléments sonores.
Et bien justement, je me suis dit, quand je t'ai demandé, je me suis dit, il va nous donner des objets sonores. Il va nous dire que j'entends une voiture, j'entends une casserole, j'entends une voix, j'entends un pied d'Ada. Non, tu n'es pas parti dans les objets, donc de Pierre Schaeffer, mais tu es parti justement sur un autre vocabulaire que je pense qu'il a été étudié quand même, mais qui décrit du son. Ça ne rentre pas dans nos catégories d'effets sonores.
Ouais, moi ça me fait penser à ce que tu dis. Ça me fait penser à ce que tu dis au dernier bouquin qui a été publié par Juliette Volkler, je ne sais pas si ça vous parle, et je vous conseille vraiment sur le design sonore, et où elle utilise très souvent des onomatopées en fait pour décrire des sons. Et elle parle par exemple de la façon dont des voitures électriques sont sonorisées pour parce que autrement elles sont inaudibles. Et tous ces sons, elle les décrit avec des petites onomatopées, des chez-vous comme ça. Et je trouve qu'à l'écriture en fait ça marche vachement bien. Et on revient à ce qu'a fait Rima tout à l'heure, c'est-à-dire comment parler du sonore sans forcément être toujours dans on va donner à écouter quelque chose. Et des fois, on se retrouve avec des bouquins pleins de QR codes et c'est assez infernal. Voilà. Donc il y a tout un registre, en fait, tout un autre vocabulaire qui fait encore pas partie des effets sonores. Mais ouais. Alors en fait, cette séquence, c'est un effet. Donc après, dans ce que j'ai compris de ton intervention, c'est que tu as essayé peut-être dans toute la séquence de trouver plein de petits effets, c'est ça ?
Au début, j'étais plutôt dans l'identification.
Ouais.
Sélection, identification, discernement, découpage, et puis après.
Alors c'est vrai que la séquence est longue, sans être longue, ça dure 2 minutes et quelques, là, c'est ça. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un effet de métabole. C'est-à-dire, c'est une séquence où on ne distingue rien de plus les uns que les autres. C'est-à-dire, tout peut être interchangeable, et il y a ce flot continu de sons. Je sais pas si c'est clair, mais l'idée de métabole, mais voilà, tout peut être interverti, il n'y a pas de hiérarchie dans les sons, il n'y a pas une émergence, qui sort plus que les autres. Typiquement, ces sons de restaurant, de café.
Ouais. Pour pousser peut-être un peu plus loin, c'est le métabole, il y a plein de sons effectivement qui bougent tout le temps, là, mais c'est un milieu qui est métastable, justement, ça bouge tout le temps, mais le milieu lui-même, en l'occurrence, on est dans un marché oral, on peut se balader pendant une heure là-dedans, on va avoir des tas d'émergences de sons singuliers, mais on va être dans une ambiance sonore métastable. Et juste pour finir, pour un jeune micro, excuse-moi, pour répondre à ta première description, il y a aussi ce fait que on rentre dans le marché, on est dans cette métabole et je devais crescendo lorsqu'on sort. Donc là, ce n'est pas faux non plus, tu vois, ce que disait Sébastien, c'est qu'on peut décrire avec tel effet, mais avec tel effet, il y en a d'autres qu'on peut lire autrement.
L'effet sonore, est-ce que c'est déjà cette prise, est-ce qu'elle est prise d'un point fixe et on ne bouge pas? Est-ce que dans l'effet sonore il peut y avoir du mouvement aussi? Et est-ce que l'effet sonore ça peut aussi être une composition de son, un montage et qui, traduit un effet. Par exemple, je sais pas, l'effet de coupure, il peut très bien se monter, en fait. Voilà, donc est-ce que c'est une prise, est-ce que c'est un point fixe, un déplacement, un montage, voilà, est-ce que ça c'est catégorisé?
C'est, je dirais, toutes les circonstances dans lesquelles tu peux te trouver à écouter. Donc ça peut être le simplement naturel dans la rue, tu es posé sur un banc, tu écoutes la place sur dans la cité de Cabuche, ou alors tu te balades et tu fais un transect et tu vas toi-même par ton cheminement faire un effet de coupure quand tu tournes au coin de la rue, faire traverser un effet de métabole quand tu vas rentrer dans le marché, des choses comme ça. Effectivement, c'est une volonté de ne pas se fixer sur tel ou tel objet, sur telle ou telle description, mais d'inclure toutes les circonstances dans lesquelles on peut entendre des phénomènes sonores, donc des mixages, très souvent. Avec cette métabole dans ce marché, si on écoute très attentivement, tu vas dire, tiens, ça mixe une voix ici, plus une pièce là-bas. Ça peut être un effet de mixage aussi, ça peut être entendu comme ça. Et puis voilà, tout ce qu'on peut aussi composer, c'est pour ça que c'est aussi utile parfois quand on fabrique des sons, c'est que je vais composer un effet de vague en prenant tel ou tel élément, puis là je vais insérer un effet de coupure. Ça peut être aussi un vocabulaire de composition ou d'analyse de ce qu'on écoute.
Et puis même dans le récit qu'ils font dans le répertoire, ils font appel à des notions qui viennent de la musique, qui viennent même du cinéma, de la composition sur l'image. Enfin, il y a tout un tas de références qui sont mobilisées, donc ça peut complètement rentrer là-dedans, quoi. Même si j'ai l'impression, enfin je sais pas, tu me diras Jules, mais j'ai l'impression que la majorité des effets sonores sont quand même sur des prises, souvent de points fixes, des prises d'une...
Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Okay. Non, le fait d'écouter en marchant, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Je me balade, je fais une balade et je fais. Il y a par exemple l'effet de fondu enchaîné qu'on trouve au cinéma, ou l'effet de mixage. Et bien, on fait une balade dans une rue, on fabrique ou on vit ces effets-là. Le fondu enchaîné, telle ou telle ambiance, mixage, tel ou tel élément. C'est vraiment un vocabulaire pour parler généralement de toute situation sonore possible.
Voilà. Il n'y a que le résultat à l'écoute.
Voilà. Ben, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre sinon ?
Oui, non, il n'y a
pas. Non, mais c'est clair.
Je
dirais peut-être une des contraintes de l'effet sonore, c'est que ce n'est pas juste un phénomène qu'on veut décrire, mais c'est un phénomène qui va appartenir peut-être aussi bien au vocabulaire acoustique qu'un vocabulaire psychoperceptif ou social, voire même esthétique. C'est un truc qu'on va pouvoir retrouver dans des tas de champs de la connaissance disciplinaire. Pas forcément tous tout le temps, mais souvent, tiens, si c'est juste un phénomène, bon, ça sera un effet simple, un effet de réverbération, ou quelque chose comme ça. Mais certains, justement, en phrase, on va trouver, par exemple, le crescendo des crescendo, on va le trouver dans une séquence urbaine, et on va s'en servir en musique, toujours.
Moi, je voulais juste savoir la différence entre les cocktails, parce que moi, ça m'a pensé à cet effet-là, quand j'ai écouté. Mais c'est quoi la...
Je vais rester un peu clair là-dessus.
Ouais, je peux essayer si tu veux, mais...
Non, moi, depuis le début de cocktail, je me pose beaucoup de problèmes.
Ah ouais.
Il y a la définition que donnait Théo le jour, qui était décrite par quelqu'un d'autre, j'ai plus noté classiquement, qui consiste à dire que dans un brouhaha comme ça, si je suis en train de causer avec quelqu'un, je vais pouvoir discuter et entendre en évacuant tout le brouhaha qui est autour, parce que je suis en train d'avoir une action sonore communicationnelle. Ça, c'est une exception, il y en a une autre.
Ouais, c'est celle-là que j'ai, moi. C'est la capacité, du coup, à sortir de ce brouhaha ambiant. Et... Parce que là, l'effet de métabole décrit cette non-hiérarchie entre les sons et cette espèce de masse.
Voilà.
Et l'effet cocktail dit, tiens, on peut sortir, ça peut se combiner, hein, certainement. Enfin, oui, ça fonctionne ensemble. Quoi.
On peut très bien dire qu'on va écouter seulement le ticking de la caisse dans laquelle on est.
Mais alors là, c'est beaucoup moins possible.
C'est possible.
C'est
l'écoute abstraite comme ça, c'est moins possible parce que tu n'es pas directement engagé. Ouais. Mais on pourrait très bien aller écouter et puis je dis, concentrez-vous sur les voix que vous entendez. Ouais. Vous allez évacuer tout ce qui n'est pas voix et vous allez prendre plein de voix. Vous aurez peut-être même été capable d'écouter ce qu'ils disent.
Après, l'effet cocktail, il y a peut-être une dimension aussi. un truc focalisé sur un flux, alors que là, il y a, enfin, en tout cas, une onde, et alors que là, bah, il y a un mouvement, et donc on traverse une période de plus de densité, et ensuite on sort de cette densité-là. Quoi. Voilà.
On peut écouter l'effet cocktail à la rigueur.
On peut écouter une illustration. Je ne suis pas sûr, en fait, moi je vous dis, j'ai un problème avec celui-là.
Ah ouais.
Parce que si on prend cette dimension de jeu, on discute ensemble dans la foule, ce qui est un peu l'illustration que j'ai mise là-dedans. Il y a d'autres effets qui décrivent ce phénomène qu'on fait abstraction, on gomme tout ce qu'il y a autour parce qu'on est concentré sur un élément de ce bruit, ou alors au contraire, on est focalisé et on est. Voilà, c'est à double sens. Quoi. Soit on gomme le reste, soit on est focalisé sur ce qui nous intéresse. Donc il y a d'autres effets qui en parlent.
Ouais, ouais.
Si ça vaut vraiment.
Ouais, peut-être on pourrait écouter d'autres choses. Juste pour vous dire que là, ce qui est affiché, en fait, c'est le. Ouais. Ce qui est affiché à l'écran, c'est le. Vous pouvez retrouver sur le site du labo, là, à une.fr.com. Il y a donc là. Tous les effets sonores. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous illustrés, mais une bonne partie, en fait, c'est des petites. Il y a des bandes sonores qui sont décrits et présentés comme ça. Voilà, on peut retrouver là-dessus.
Oui, en fait, je vous ai mis la référence dans le même info que je vous ai envoyé hier. C'est sur le site du labo. Et chaque fois que j'arrive à trouver une illustration de tel effet, on essaie de rajouter. Il y en a certains qui ont 14-15 illustrations, ça c'est facile. Et puis il y en a d'autres, et bien, ils sont impossibles à illustrer. Il y a un truc qui me fait toujours rigoler, c'est l'effet de bureau, on appelle ça, il n'est pas très loin si vous le regardez. C'est l'effet de bureau, il utilise le fait qu'on est attiré, on a envie d'aller entendre un truc qui n'a jamais été entendu. Et ça, finalement, je me suis dit, tiens, mais ça arrive peut-être plus souvent que ça. Là, de bureau, il s'appelle comme ça parce que c'est la légende, l'histoire du mime de bureau qui est racontée dans le film de Jean Carnet de 1900, je ne sais pas, les Enfants du Paradis, je crois, où en gros c'est un mime célèbre à Paris au 19e qui a commis un crime et qui va être jugé. Et tout Paris vient à son procès parce qu'il va enfin pouvoir écouter le mime qui ne parle jamais. Donc c'est cette curiosité, mais après, ça a quel point un mime. Voilà. Après, en réfléchissant, je me dis, mais il y a peut-être d'autres circonstances comme ça où on va aller écouter un truc parce qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble.
Ouais, dans une moindre mesure, moi, ça me rappelle là où j'habitais avant, j'avais un son métallique quand j'entendais assez souvent qu'il y avait du vent, comme un portail qui battait. Et je n'avais jamais identifié l'endroit où c'était, en fait. Et je l'entendais très régulièrement, et donc j'imaginais que c'était un portail de l'autre côté qui faisait ce claquement. C'était assez joli parce qu'il y avait le bruit. Voilà. Et donc j'ai toujours imaginé que c'était quelque chose. Et jusqu'au jour, en fait, où j'ai découvert que c'était un espèce de volet, un store, en fait, qui était cassé dans le bâtiment d'en face. Et j'étais presque déçu, en fait, d'avoir découvert cette source parce que je perdais un peu ce côté imaginaire de me dire, ah ouais, tiens, ce son-là. Et puis, en fait, une fois que tu trouves la source, c'est un peu bon. Une petite déception. Oui.
C'est ça, ce que j'ai entendu dire, ça fait. C'est-à-dire qu'on va attendre avec beaucoup d'impatience d'écouter soi, ou qu'est-ce que ça suscite ce type de
choses? Ouais, c'est plus d'un point de vue psycho-perceptif, quoi. Enfin,
c'est ça.
Ouais.
C'est pour ça que les effets au sens large ne sont pas forcément relatifs à quelque chose que tu vas pouvoir entendre, acoustiquement. Mais ça devrait être une attitude d'écoute dans ta tête, dans ta perception, dans ton volonté de comprendre qui va faire cet effet-là. Il y en a un autre qui est assez souvent utilisé, qui est l'effet d'anamnèse. C'est-à-dire qu'il y a un son qui va te frapper quelque chose à toi dans ton souvenir personnel, ou un son qui va évoquer une circonstance historique. Et quelque part, il n'y a aucun lien entre le son en question qui va te faire de l'effet. Il y a un moment, ne t'en pas, et tu vois, toi, ça va marcher, la madeleine de pouce de ta madeleine à pouce, selon.
Et je prends ta question, mais là-dessus, je trouve qu'il y a un point commun entre l'objet sonore, le paysage sonore, les effets sonores. C'est l'exercice d'écoute, en fait, auquel ça appelle une sorte d'éducation de l'oreille. C'est-à-dire que tous les trois, enfin voilà, ces trois objets-là ont, je crois, pour but d'exercer l'oreille, de forger un peu plus l'attention sur des modes différents. Mais c'est vraiment ce sur quoi travaille, il me semble, ces travaux-là. À travers des exercices, à travers des différentes méthodes. Il y a une question.
Mais du coup, ça marche dans les deux sens, c'est vouloir mettre une image sur un son et dans l'autre sens, vouloir mettre un son sur une situation, une image, avec ton exemple du portail par exemple.
Ouais. Ouais. De mettre une image sur un son, alors je sais pas s'il l'évoquerait comme ça, mais.
Trouver la source, quoi.
Ouais, oui, enfin, dans ce cas précis-là, ouais, y a un rapport à la, ouais, à la source sonore.
Une question.
Ouais, parce que là, en fait, l'effet sonore, c'est pas un truc qui est propre à la singularité du son, c'est presque plus une forme de fascination pour un son nouveau, ou alors inédit.
Dans ce
du coup, c'est un effet plus psycho.
Et voilà, même pas perceptible, parce qu'il y a aucun son effectif.
Il est psychomimétique.
Oui, un truc comme ça. C'est psychomimétique, moi je dirais. S'il était psychoperceptif, ça veut dire qu'il y a quand même un son à la base que tu perçois de telle ou telle manière. Alors dans ce cas-là, bah, il peut même.
Dans ce cas-là,
il n'existe pas encore.
Ça découle uniquement d'une curiosité de quelque chose qui peut arriver ou qui a le potentiel d'arriver.
Exactement.
Mais à partir du moment où ce son arrive, du coup,
ça devient autre chose, voilà, ouais. Exactement. En gros, en écoutant le MIF, tu détruis l'effet de bureau.
Donc c'est un mythe, c'est ouais. Quelque chose de...
C'est des sirènes, c'est une quête.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'en fait, ça l'exemple, il est un peu original, mais il pourrait y avoir des exemples beaucoup plus classiques, du genre, par exemple, je sais pas, on discute avec une personne sur... on envoie un mail à une personne qu'on n'a jamais vue, on imagine sa voix,
complètement. Il me semble que je ne l'ai pas encore mis, mais j'en ai trouvé des exemples dans la vie quotidienne tous les jours. Effectivement, ce que tu dis, c'est bien, je chatte depuis des années avec quelqu'un et là, on va s'appeler pour la première fois. Et ça, c'est pas tout ça pour jouer. Et ça, c'est pas tout ça pour jouer.
Ou un naturaliste à la recherche d'une espèce.
Ouais, après, si elle. C'est le côté pionnier dans le truc.
Pionnier.
Être première personne, du coup il y a un côté social aussi, de distinction. Je suis la première personne à avoir entendu ça. je quête, je chasse ce son parce que j'ai envie d'être la première personne à l'entendre.
Je suis la seule personne à avoir jamais entendu. Ouais. Le pas du pied lunaire sur, sur un cactus.
De créer l'effet de bureau chez les gens.
Mais j'imagine des pubs, ça doit exister. Pour la première fois que vous allez entendre. Ouais, bon, pas trop se fixer sur ce lien. Trois semaines de 80 à peu près qui ont été repérés. Il y a une demi-douzaine qui sont en cours de repérage. Et je suis sûr que vous, dans vos expériences sonores, vous pouvez dire ah, ça c'est quoi, mais il n'est pas là-dedans.
Donc ça veut dire que c'est un répertoire que vous continuez à alimenter ?
On va dire tout de suite, ce répertoire classique publié, traduit, il a été publié, fabriqué dans le début des années 90. Depuis, justement, à force de l'étudier, de l'exemplifier, on se dit, ah, mais oui, effectivement, là, qu'est-ce qu'il fait comme effet pour décrire tel ou tel truc qu'on a rencontré ? On continue à se brancher, là. On a envie de relancer un autre séminaire, justement, pour enrichir continuellement.
On enchaîne ?
On enchaîne.
On repart sur des petites séquences un peu plus courtes, quelque chose de plus simple, peut-être. Avec peut-être que du son.
Attenzione, treno in transito a bordo 3, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, please con attenzione, treno in transito.
Plus simple ici, je sais pas si.
Encore une fois, on peut entendre deux ou trois effets.
Ouais. Bon, là, l'illustration principale, c'est vraiment la voix, quoi, et donc l'effet de réverbère, enfin l'effet de délai, en fait. Alors, je sais pas si. Moi, j'ai un petit problème avec la différence entre délai, réverbération, écho. C'est assez vague, et même en relisant le répertoire, c'est des effets voisins, mais voilà, donc la réverbération est l'effet peut-être le plus décrit. Voilà, là on pourrait dire un effet de délai peut-être, je sais pas, mais pour les musiciens ça parle plus. C'est le son qui continue en fait après la fin de son émission.
Ah, c'est celui-là par contre je peux plus aider. entre réverbération et écho, ça peut être assez simple, on va dire la réverbération, c'est le bruit qui va partir d'ici, qui va taper sur le mur et qui va revenir. Et ça peut être des réverbérations plus ou moins longues en fonction de l'espace, dans une cathédrale, dans le chapitre de Pierre-Louis, c'est 6 ou 6 secondes de réverbération, c'est-à-dire que le son n'arrive pas de faire des allers-retours, vous serez bien sur les murs, c'est monstrueux. L'écho, c'est quand le mur en question est suffisamment loin pour que le son ne revienne pas, alors que je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est à 35 millisecondes. Qui est à 35-40 millisecondes, c'est en moyenne un temps de discrimination de notre écoute. C'est-à-dire qu'en dessous de 35 millisecondes, enfin, c'est à peu près moyenne, hein. au-dessous de ça, eh ben, on va entendre la réverbération, on va entendre deux sons, alors qu'au-dessus, on va faire tac-tac dans notre tête. Ça, c'est pour différencier la réverbération de l'écho. Et après, le tac. Tac, parfois des échos qui sont à 350 mètres et qui reviennent une seconde plus tard. Vous voyez un petit peu la nuance. Et dans le cas du
délai. Mais en fait, juste pour. C'est pas une qualitatif, c'est juste. C'est au-dessus d'une certaine distance.
Voilà.
Le temps de retour est au-dessus d'un seuil qui veut dire que.
Il a utilisé perceptif, distingué de son.
C'est pas la continuation d'une son, c'est l'invention d'une deuxième.
Voilà, il y a une séquence dans la tête.
Ouais.
Exactement. Après, la réverbération peut être très complexe, c'est-à-dire mon son, il va dans tous les sens en même temps, et il va être plus ou moins réverbéré par ici et absorbé par là-bas. Ça peut fabriquer un espace, ça fabrique la plupart du temps des espaces sonores très complexes.
Il peut coexister
la réverbération. Exactement, tu peux avoir ici une réverbération. Ici, c'est ouvert, il y a un mur à 50 mètres, et je fais un gros bruit, il revient un bon temps après que le son d'ici soit. Quant au delay, parce que ça, pour moi, c'est une illustration de l'effet de delay, ça n'a rien à voir avec l'espace. Enfin, ça n'a rien à voir avec le fait que le son va revenir. Là, en l'occurrence, c'est juste, on est sur le quai d'une gare, il y a des haut-parleurs tout au long du quai, et le message est transmis, mais il arrive dans ce haut-parleur-là avant d'arriver dans le sud et là-bas. C'est ce qui crée le décalage. Et ce n'est pas un écho du même truc qui va partir et revenir. C'est juste que le message lui-même, le signal, eh ben, il va prendre un peu de temps pour faire les 200 mètres du quai. Et donc, on entend le premier haut-parleur et juste après, le deuxième. Mais c'est vrai, c'est une demi-seconde.
C'est le son qui est désynchronisé.
Voilà. Il est désynchronisé. Ben, comme fait un delay quand on fait du montage. Hop, on prend un son, on le décale. C'est pour ça que c'est un son qu'on trouve dans les effets électroacoustiques facilement, mais qu'on peut aussi trouver dans la vraie.
Et du coup, dans les grands lugares, le télé, la réverbération, il est.
Voilà. Il est plein d'autres choses en plus. Il la met pas bonne.
Mais donc, le télé, c'est forcément un truc électronique. Enfin, où ça existe.
C'est plutôt plusieurs sources. C'est pas un sens, il y a plusieurs sources qui se trouvent.
En l'occurrence, c'est la même source. Enfin,
non, c'est pas la même source.
C'est le même son.
C'est pas la même chose, mais c'est le même signal, c'est le même son, même signal, voilà, qui est diffusé par différentes sources.
Mais, ouais, on peut imaginer des animaux qui préviennent leurs collègues qu'il y a un prédateur qui arrive, et des singes, par exemple, et ils se passent le mot.
Ça pourrait être interprété comme ça, effectivement.
Ah ouais, pourquoi pas.
Mais ouais. Cela dit, c'est une perception, parce qu'on ne distingue pas le son de tel singe, tel singe. Or, ils ont chacun leur voix et leur signal.
Oui, mais voilà. Après, voilà, c'est des discussions, des formulations qui peuvent être faites. Mais je pense aussi, je ne sais plus dans quelles circonstances, où c'est dans les montagnes, il y a quelqu'un qui dit oh, et puis l'autre qui dit oh, plus loin. Et il y a l'effet de répétition, donc ce n'est pas le même objet sonore, ce n'est pas le même signal. Donc c'est quelqu'un qui répète la même chose pour transmettre, et ça crée aussi un effet de delay.
Et dans le cas d'un rouleau de bague, un rouleau qui s'écoule le long de la plage, il y a un effet de délai ou pas?
Il y a un effet de vague, c'est sûr.
Ouais, non, moi, je dirais que le délai, c'est vraiment comme en électroacoustique, quoi, c'est que tu prends le même signal et tu le répètes un peu plus loin. Mmh. C'est pas forcément dans
l'ordinateur,
ça peut être sur le
téléviseur.
Bon,
vas-y. Non, c'est dans la proximité, mais si on chante Frère Jacques, par exemple, c'est la même chose. Quand on commence à chanter, c'est ok.
Et bien, à toi, le canon, le flux, les choses comme ça, ça fait partie des réflexions qu'on a notées pour bien, est-ce que ça fait partie de l'effet de répétition, simplement, ou le delay, ou c'est là que l'enrichissement de ce répertoire primitif passe par ce genre de question, qui est un thème. Sur tel objet, qu'est-ce qu'on va voir? C'est un peu ça, c'est pas complètement ça. Et donc, on est chez.
Du coup, puisqu'on est sur ces effets-là, on repart sur une petite séquence sur 2 minutes 30 d'écoute, un peu sur le même registre. C'est vachement lié au casque. Je ne sais pas s'il y a des réactions.
Du coup, je ne sais pas exactement, mais ce que j'ai capté, qui peut ressembler, du coup, c'était des sons très lointains. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de un écho, une résonance, je ne sais pas exactement. Mais j'arrive pas à savoir, c'est bizarre. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a, comme c'est plusieurs micros, en fait, du coup, et que la distance est faite par le micro, mais je pense pas. Et du coup, j'ai l'impression que c'est dans nos endroits peut-être un peu vallonné ou quelque chose comme ça, ou peut-être entre deux points de montagne, du coup, il y a un son qui suit une, comme un effet tunnel, quoi, en quelque sorte, mais je suis pas sûr. Voilà.
Avec ton commentaire, Peter, j'ai réussi à plus définir les sensations que j'ai eues quand j'ai écouté ce son. J'avais l'impression comme si j'avais en coquillage, que j'avais rapproché un coquillage de mon oreille, comme si c'était à la fois très près, mais à la fois très loin. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça quand vous étiez petit, mais pas que.
Moi, j'avais l'impression qu'il y avait des. Un peu peut-être comme un peu de distance à parler, où il y avait des choses qui étaient proches, on arrivait à distinguer rapidement, comme les oiseaux. Et du coup, ça créait une. Enfin, finalement, ça m'a créé une attente, où je me suis dit, ok, ça c'est l'oiseau. Ah, et là, je sens de temps en temps d'autres sons émerger, qui sont. Et j'ai l'impression que plus ils sont lointains, moins j'arrive à les différencier. Je situerai les enfants un peu après les oiseaux, et puis les voitures encore un peu plus derrière. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est l'enchaînement qui était comme une composition, où on avait l'impression qu'on entendait le premier son très fort, qu'il laissait la place pour qu'on aille chercher les autres sons et sans jamais vraiment réussir à y aller. Voilà.
Je suis complètement d'accord avec ça aussi. Comme s'il y avait trois parties, quoi. La première c'est les oiseaux, après on attend quelque chose, parce qu'on se dit que ça va peut-être pas être des oiseaux pendant deux minutes. Après il y a la voiture qui passe, du coup on est en gros proche, comme si on était dans une distance moyenne avec les oiseaux. Après le proche avec le espèce de camion, peut-être dans le palais, et puis très loin un bruit enfantin.
Il y a des sons qui sont encore plus éloignés que les bruits enfants. Genre, je pense que le premier plan c'est les oiseaux, le deuxième plan c'est les enfants, t'as effectivement des camions, je pense que c'est un camion qui passe très proche, et très loin il y a comme des travaux, comme s'il y a une pelleteuse qui lâchait des cailloux. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça.
Encore revenir sur la file de bureau.
je peux donner quelques infos. Du coup, alors déjà c'est une prise qui a été faite sur un seul micro en point fixe, il n'y a pas plusieurs prises. Effectivement, alors moi j'ai une petite frustration en écoutant ça là, c'est qu'au casque, il y a vraiment la perception de ces différents espaces là, que vous décrivez, et où on a l'espace, bon, il y a l'espace proche des oiseaux, mais surtout les jeux des enfants, et qui décrivent un environnement assez proche et assez clos, où on sent qu'on est complètement séparé de la circulation. Et puis derrière, il y a ces coups. Alors moi, quand j'enregistrais ça, j'avais noté, donc on est à Échirolle, on est entre Échirolle et Pont-de-Clé, pas très loin de l'espace Comboire. Je suis sur une petite butte, et puis j'ai noté le bruit de travaux, et en fait j'ai compris qu'après, il y a le champ de tir qui est juste à côté, donc c'est des tirs, et il se trouve qu'en fait, il y a une falaise, qui est, donc il y a le drache qui passe, et il y a une falaise, donc en fait, les tirs se répercutent sur la falaise, quoi, et c'est assez extraordinaire, du coup. Et en parlant avec les gens, en fait, ces tirs s'entendent jusque très loin. Il y a eu des plaintes parce que le chantier a réouvert assez récemment et ça s'entend jusqu'à Pont-de-Clé. Enfin, bref. Ce qui me plaît beaucoup, c'est ce que vous avez décrit, c'est-à-dire ce mélange de plusieurs espaces entre les enfants, les bruits de chantier qui arrivent de très très loin, avec cette réverbération écho je le décris en termes d'écho. Ces sons de tir qui sont où on a vraiment le départ et puis il y a l'écho qui arrive facilement une seconde après, quoi. Et en fait ce qui se passe même, alors il faudrait réécouter, mais il y a un premier tir et quand l'écho du premier tir, sur certains trucs, hein, quand l'écho du premier tir démarre, il y a un deuxième tir qui démarre, donc on a l'écho plus un deuxième écho, enfin ouais, c'est assez marrant. Voilà. Et on a aussi cet effet de je sais pas si vous avez cet effet de masque ou effet de bourdon de la circulation. Ça se décrit beaucoup comme ça, la circulation urbaine qui fait cette espèce de fond sonore, effet de masque, parce que ça va avoir tendance à masquer tout un tas d'autres émergences sonores. Et effet de bourdon, quelque chose qui ronronne comme ça dans les basses. Voilà à peu près tout ça ici.
Est-ce que vous pourriez expliquer, parce que ça revient souvent pendant la semaine, de l'expression de drone urbain.
De drone.
Drone urbain, ouais.
Oui. C'est ce que Sébastien dit en quelque sorte. Drone, c'est la traduction anglaise de ce qu'on appelle bourdon chez nous. Et donc, on a quelque part un effet de bourdon qui a été repéré aussi bien. Donc, drone urbain, on dit en général, c'est simplement quand tu entends une ville d'un peu loin, ou sur le Bruxelles, dans les villes comme Grenoble, où tu as la chance de pouvoir l'entendre au-dessus. C'est cette espèce de fond sonore qui, dès que tu l'entends, ben, il est là en permanence. Après, il va y avoir des variations la journée, la nuit, des heures de pointe, des choses comme ça. Il y a aussi un mouvement, c'est pas complètement plat, tout le temps, mais à l'échelle de l'écoute, généralement, on parle du drone qui est là, qui ne bouge pas. C'est pour ça qu'on a appelé cet effet de bourdon, parce que bourdon, c'est aussi ce qu'on trouve en musique, par exemple, dans une vieille la roue, tu vois, ces trois cordes qui sont là en permanence et qu'un vrai pièce sur lequel tu vas jouer. Les cordes de muse aussi qui en soient abondants. Voilà. C'est un truc qu'on retrouve dans d'autres domaines que simplement le son du nez. C'est pour ça qu'en tant qu'effet, ça marche assez bien. Je crois que dans le bouquin, il y a deux ou trois autres déclinaisons de ce phénomène-là. Mais... Voilà. Et par rapport au son qu'on a entendu, alors moi j'étais un peu. J'ai pas réussi à aller au même endroit que vous. J'ai bien compris vos descriptions. En termes d'effets sonores, donc à part ce drone, ce bourdon, j'étais un peu démuni parce que l'effet de profondeur, proximité, c'est Théo qui en a parlé lundi. Effectivement, ça peut être un truc qui sert à décrire ce genre de situation-là, donc à développer. Dans ce qui existe déjà, moi, j'aurais pu le rapprocher de l'effet d'ubiquité qui a son contraire, qui est l'hyperlocalisation. C'est-à-dire que l'ubiquité, là, dans cette situation-là, eh ben, on entend ces boum boum, ces crac, blablabla, mais on ne sait pas vraiment s'il vient de par là, on ne sait pas si. Après, avec l'explication, il y aurait le champ de tir quelque part par là, l'écho quelque part par là, on entend le signal très, très bien, mais on ne saurait pas dire d'où il vient. Donc, oui, d'où vient-il, quoi. Et donc, à l'opposé, si on entend un son et qu'on sait très bien qu'il vient de. Là, on appelle ça l'hyperlocalisation, ou hyperlocaliser le tout murmure du vidéoprojecteur, c'est exactement là où il est. Voilà.
Qu'est-ce que... Ouais. Bon, il est 15h57.
Tranquille, on peut se faire 3-4 minutes.
Ouais.
Il est d'accord, ouais. On donne le choix.
Ouais. On donne le choix, c'est ça.
Ou Orwell 2. Sur la Croix-Rousse, sur la Réunion.
Oui, c'est ça.
Les deux. Non, ça
va.
Pas
sur
la
Norvège,
j'ai vu. Hein? Ah, tiens, d'accord. On commence par les lettres à cordes.
Allez. C'est mes favoris.
Tu vas voir.
Thank you.
Par rapport à ce qu'on vient de commenter actuellement.
Ça va décrire beaucoup, voilà. Un sentiment de plénitude, c'est quoi? Avec l'hélicoptère, je sais pas, c'est pas
trop évident. Pas...
Pour moi, ouais, c'est plus que l'effet du souvenir aussi.
Ouais, c'est ça. Ouais. D'anamnèse.
Ouais.
C'est
toi qui
fais
la
position?
Ouais, c'est. C'est une prise de son qui est faite à La Réunion, dans un endroit qui s'appelle Lillette à Cordes, dans les halls qui sont de Lillette à La Réunion. Bon, mais, je sais pas, j'y vais, enfin, je sais pas, sauf s'il y a des commentaires particuliers.
Il y avait un effet de clameur un peu, sans représentation, comment c'était à la fois l'humour, j'ai un peu l'impression que c'était un cri de colère en même temps très fort.
Ouais.
Et après, c'est le crescendo qui fait presque le début de thriller.
C'est deux voix qui se répondent en fait l'une à l'autre et qui utilisent clairement la réverbération. Donc on est dans un endroit très escarpé avec des très grandes falaises et en fait les voix portent grâce à ça et se répondent en écho. Moi ce que j'aime beaucoup dans cet enregistrement c'est que juste avec le sonore on a toute une géographie de l'endroit qui est décrite. À travers ses usages, son habitation, ses pratiques, ses conflits, enfin, sous réserve bien sûr de connaître un minimum l'endroit, je veux dire, on va deviner ça juste en écoutant, mais tout est illustré en fait. Et donc on est dans un endroit très isolé, d'où l'hélicoptère à La Réunion, qui historiquement sont ce qu'on appelle des îlettes, des tout petits villages perchés dans la montagne, qui historiquement sont des endroits de refuge, où les gens, soit des marrons dans l'espace qui ont fui, ou alors des gens qui ont fui l'exploitation par les grands propriétaires terriens. Donc on est sur un endroit de petite agriculture vivrière, c'est des cultivateurs de lentilles en fait qu'on entend. Et ce qui est marrant, c'est que là-bas, tout au long de la journée, ils ont des stratégies sonores pour éloigner les prédateurs des cultures. Donc on entend des coups de fusil, il y en a un tout à la fin, mais on entend à peine les coups de fusil qui sont tirés. Il y a des gars qui sont assis toute la journée qui remuent des cordes qui sont des fils qui sont tirés au-dessus des cultures et des petites clochettes voilà, qui font du bruit. Et en fait, le fait de s'exclamer comme ça, de parler, c'est aussi une façon d'occuper l'espace sonore et d'éloigner les prédateurs.
Les prédateurs, c'est quoi ?
Et voilà, et cet hélicoptère qui arrive, qui raconte aussi une certaine arrivée de la modernité, de l'accessibilité du site, qui à la fois est peut-être dénoncé, critiqué, parce qu'en fait il y a un va-et-vient incessant d'hélicoptères toute la journée. En même temps, c'est une condition aussi d'accès à un certain nombre de ressources pour les gens qui habitent dans ces endroits-là. Et il y a aussi des va-et-vient d'hélicoptères touristiques. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'hélicoptère. On sent comment il y a ces voix qui se répondent, l'hélicoptère qui arrive très doucement, et puis à un moment prend toute la place, donc il se taise, et puis hop, dès qu'il est passé, ça reprend, et j'ai l'impression de voir cet effet de créneau inversé. C'est-à-dire, l'effet de créneau, c'est le fait de situer à un moment précis, ou sur un registre précis pour trouver sa niche un peu acoustique, en fait. Et là, on sent vraiment ça, c'est-à-dire que quand l'hélicoptère prend complètement l'espace, bon, bah, il ne peut plus rien se passer d'autre. Et puis dès qu'il est passé, j'aimerais bien vous montrer ce que ce programme en fait.
Il va essayer de rentrer sur l'effet de créneau. Sur l'effet de créneau, oui, on a déjà parlé, je crois que c'est Grégoire qui en a parlé lundi soir, dans la pyramide du Louvre, avec cette ville touristique. Il va mettre sa boîte là-haut pour être sûr de passer par-dessus le Louvre. Ouais, justement, donc ça, un créneau de hauteur. Donc elle se place dans un créneau de hauteur où elle sait qu'elle va peut-être entendre. Là, c'est un créneau temporel. C'est-à-dire que les gars, ils se gueulent l'un à l'autre, à un moment, ils savent que c'est plus la peine donc, avant que l'hélicoptère se passe, avant de recommencer. Donc c'est le même phénomène, quoi, pour être sûr d'être entendu. Et c'est pas la peine qu'on bute. Et parallèlement, cet hélicoptère, eh bien, il fait effet de masque sur tout ce qui est autour. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il n'y a plus que ça qu'on peut entendre.
Ce que je trouve intéressant dans cet effet de créneau, c'est que ça crée, enfin, en tant qu'auditeur, on est dans la situation un peu d'attente où on est en suspens et du coup ça nous incite à plus faire attention au bruit ambiant du coup, vu que les silences, on est dans l'attente d'une prochaine intervention, on fait beaucoup plus attention à l'ambiance.
Mais en plus tu viens de soulever un autre terme qui fait l'effet qui est peut-être décrit comme un autre effet, c'est l'effet de suspension. Tiens, il se passe quelque chose, et à un moment, on attend que ça rattrape. Et donc là, c'en est un, bon, qui est mis, voilà, au créneau et au masque, et suspension également. Après, les effets de suspension, moi j'adore. On l'a presque tout le jour. Ne bougez pas, je vais vous montrer un truc. Ça marche pas. Et on a été suspendu pendant ce temps-là. C'est pas que ça, ça fait le souci à la main, mais cet aspect-là résulte souvent en souci.
Et juste pour vous montrer rapidement ce petit outil-là qui est le spectrogramme, qui est la représentation. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose presque en 3D du son. Donc en fait, c'est les fréquences qui sont représentées de bas en haut. Donc plus on monte, plus on est dans les aigus, et plus c'est rouge, plus c'est intense, plus c'est fort. Et on voit vraiment, donc, tous ces trucs verticaux, c'est les cris, voilà. Et on voit vraiment cet hélico qui arrive tout doucement, comme ça.
Tu peux jouer sur l'hélico, s'il te plaît ?
Oui.
C'est encore un effet, voilà. Il y a encore un effet qui apparaît dans le spectrogramme, c'est un effet physique. C'est Doppler, tout le monde a entendu parler du Doppler. Quand on a une mobilette qui passe, une mobilette qui passe, en gros, le moteur fait le même bruit d'un bout à l'autre, il ne bouge pas, il n'accélère pas, il ne ralentit pas. Par contre, la perception va entendre une montée et descente, et sur un enregistrement, eh ben, on le voit. Parce que les coupes, elles sont pas plates comme si c'était un objet sonore qui se déplace, mais avec la perception.
Ça, c'est le mouvement de la source sonore. C'est ça avec la sirène, quand ça vient vers toi,
voilà.
Une fréquence plus haut.
Voilà. Ça tient le physique exact, c'est juste ça tient que les hautes fréquences vont plus vite que les basses fréquences, mais elles vont moins loin, donc on commence par se percevoir.
Ouais. Mais là, de toute manière, ça trace le mouvement de la surface. C'est vis-à-vis à.
Non, ça fait des signes, l'effet de Doppler en fait. Parce que le micro, c'est comme une oreille.
Ouais, mais le truc Doppler, c'est un truc de mouvement.
Oui,
Et tout à l'heure, en écoutant et en regardant le spectrogramme, je sais pas, on le voit, c'est marrant, il s'affiche pas pareil sur nous. En fait, il y a des petits effets de. Je sais pas si. Alors, je vais pas dire effet de vague parce que ça correspond à un truc, mais vous voyez, il y a ces petites vagues là, et c'est vrai qu'à l'audition, avant que l'hélicoptère arrive, il fait pas un son continu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment. On sent. Ça comme ça, et puis c'est très léger, quoi, mais il y a ces. Il y a ces petites vagues comme ça, et je sais pas à quoi c'est dû, probablement à la répercussion en fait dans les montagnes. Et je me suis rendu compte de ça tout à l'heure, en fait, c'est pas linéaire complètement, quoi. Une fois qu'il est là, il est là, quoi. Mais... Bref, voilà. Voilà, bah, je sais pas, on va peut-être s'arrêter là.
Il est 4h10, on fait une pause ou bien.
Ouais, une pause. Non, tout simplement, on est dans la demande. Moi, j'enseigne au conservatoire en Italie, donc j'ai des élèves aussi qui sont qui font la musique électronique quand je faisais du son. Et l'année dernière, moi, j'ai fait un cours dans lequel je présentais quelques-unes des effets sonores. Et je lui demandais, sur cette petite classe de 7-8 personnes, de faire que je disais un trailer. Donc, je veux dire, c'est un peu comme trailer d'un film, ça doit noter que l'effet sonore, c'est quelque chose de compliqué, il y a des approches sur les choses sociologiques, philosophiques, architecturales, perception, etc. Donc, je lui demandais de faire soit une vidéo, soit un audio de 2, 3, 4 minutes. Je n'ai récupéré 4 qui sont, que, bon, évidemment, ils ont fait des textes où ils parlent en italien. Ils sont en train de faire une version avec des sous-titres anglais. Et on l'a installé au Cresson, il n'y en a que 4 pour l'instant. Il y a un mec avec un casque et qui tourne en loupe. Il y en a 4 qui sont là, vous savez, c'est au Cresson, vous entrez à gauche, là, à côté du bureau de Nicolas, dans la salle qui est là, avant le bureau de Nicolas ou de Donc ils sont là, ils peuvent rester là, vraiment pas de souci. Je ne sais pas si avant demain j'arrive à récupérer les autres, mais quand même, ça, je vous invite à aller écouter. Parce que, bon, si vous êtes là, je suis là, j'aime bien avoir un feedback de votre part. Puisque, bon, évidemment, quelqu'un m'a déjà dit, oui, on écoute la voix italienne et on lit le texte anglais, ça dérange un peu par rapport au son. Donc, voilà, je suis curieux de savoir ça. Merci.
On a encore plein de choses à vous faire écouter, mais on peut faire une pause. Il paraît qu'il fait jour encore.
Ouais. Pour l'instant.
Merci pour votre participation. Et je ne sais pas si vous avez des questions.
Ça va prendre un peu de temps. Tu t'en vas de pause, ça fera du mieux.